marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Dans le siècle, dans le monde, sorti de soi ou des murs qui vous entourent, retrouvez les autres et la marche du monde.
1917-1918, les poètes russes et la révolution.
Venez vers nous, nous vous ouvrons les bras. Oubliez les horreurs de la guerre, tant qu'il est temps. Désarmez votre bras. Camarades, nous serons frères.
La poésie, c'est une horloge qui avance. Depuis le début de la guerre 1914, nombre d'auteurs russes, tendant l'oreille, guettaient l'avalanche. Puis vint l'année 1917. Le rideau tomba sur le vieux monde. Les Russes crurent un moment n'avoir assisté qu'à une représentation du théâtre de l'histoire. Ils se dirent, il est temps de reprendre nos fourrures et de rentrer à la maison. Mais il n'y avait plus de fourrures, ni de maison. Maïakovski aimait raconter que les marins qui avaient pris le palais d'hiver auraient récité ces vers. « Mange tes ananas, mastique tes galinottes, ton dernier jour arrive, bourgeois !»«
Ешь ананасы, ляпчики жуй, день твой последний приходит, буржуй !»
Ça, c'est la voix de notre invité André Markowitz. Et en effet, les vieux privilèges ne tenaient plus. Après la prise du pouvoir par les bolcheviks, 7 novembre 1917, la guerre civile commença vite. La désorganisation était telle que les services élémentaires ne pouvaient plus fonctionner. Les poètes, à l'issue des lectures publiques qu'ils affectionnaient, se faisaient payer en saucisson ou en pommes de terre. Mais les premiers mois, les premières années même, beaucoup d'entre eux soutinrent un régime qui leur donnait une responsabilité. C'en était fini de la vieille Russie. Mais ils étaient convaincus que dans ce pays bouleversé naîtrait une nouvelle humanité qu'il leur revenait d'accoucher. Jusqu'au dernier de nos boutons, nous referons le monde à fond. Maïakovski, toujours. Mais même les responsables bolcheviks qui leur étaient le plus favorables n'entendaient pas donner à des membres de l'intelligentsia un pareil rôle, réservé évidemment au peuple et dans le peuple, à la classe ouvrière. Quant à Lénine, on rapporta qu'il s'était tourné un jour vers sa femme, Krupskaya, et qu'il lui avait dit « Oh, vous savez, en matière d'art, nous autres sommes de vieilles gens !»
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Donc on a déjà entendu, dès le chapeau, la voix incomparable d'André Markowitz, bonjour.
Bonjour, excusez-moi, c'était plus fort que moi.
Traducteur. Alors comment auriez-vous traduit du russe au français « Mange tes ananas, mastique tes galinottes ».
C'est les ortolans, c'est ce genre de truc. En fait, ce qui compte, c'est la rime. « Mange tes mangues, bois ton liégeois, ton dernier jour approche, bourgeois ouais. ».
Alors, après la révolution d'octobre, celle des bolcheviks, nouvelle organisation, Luna Tcharsky, en octobre, devient commissaire du peuple chargé de l'instruction publique et des questions culturelles. Alors, il est qualifié parfois de bolchevik mou. Enfin, c'est un bolchevik qui s'intéresse beaucoup à la protection du patrimoine oui. artistique et qui veut aussi protéger les avant-gardes, en ce sens que certaines d'entre elles sont favorables au mouvement. C'est aussi un déplacement de génération qui se produit. On entend moins parler de Gorki, le patriarche des lettres, par exemple.
Alors, Gorki, en 17... Il est né en 71, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, il a déjà 46 ans et Gorki est absolument contre ce qui se passe.
Ah bon ?
Absolument. C'est-à-dire, les premières années, il tient un journal où, dans lequel il condamne radicalement la révolution d'octobre, pas la révolution de février, on s'entend bien. 1917, c'est l'avènement de la génération de ce qu'on appelle le siècle d'argent. Hein ? Maïakovski est né en 93, donc il a 24 ans. Pasternak, 90. Mais Mandelstam, 91. Tsvetaeva, 92. Akhmatova, 89. Aucun de ces poètes n'est d'accord. Le patriarche réel des lettres de la poésie russe, c'est Alexandre Blok, qui est né en 1880, qui a 37 ans.
On parlera de lui tout à l'heure. Il y a un autre grand déplacement qui suit octobre, c'est le déplacement du centre de gravité culturelle de Saint-Pétersbourg à Moscou.
Ça, c'est fondamental. Les bolcheviks installent tout de suite la capitale à Moscou, pour des raisons d'abord d'ordre pratique, c'est-à-dire que Pétersbourg peut être pris soit par les Allemands, soit par les forces blanches, et donc on déménage à Moscou, mais Pétersbourg, c'est la ville impériale, créée par Pierre le Grand, et c'est la ville du pouvoir de l'Empire. Revenir à Moscou, c'est recentrer la révolution sur la Russie, sur une ville encore beaucoup plus ancienne, et en quelque sorte recentrer la révolution sur le continent russe, et pas vers la mer.
On fait beaucoup de cas dans les histoires de la littérature russe du rôle que soudain prennent les cafés. Parce que le café, c'est moins dans la tradition russe que dans la tradition de l'Europe centrale ou occidentale, non ?
Non. La tradition d'avant 14 était déjà celle des cafés, des cabarets. Il faut bien se souvenir que la Russie, entre le 1905, disons, et 1914, a un développement très rapide, comparable, voire supérieur à celui, par exemple, des États-Unis. Et la vie culturelle de la Russie, de cette époque-là, c'est absolument la vie culturelle de l'Europe. Hein. On publie les textes l'année même où ils paraissent dans la langue originale, de toutes les langues. Et il y a une grande partie de la vie culturelle qui se passe naturellement dans les cafés, où les poètes se retrouvent, disent des poèmes
et font des lectures publiques.
Absolument.
Exemple, l'écurie de Pégase, où dit ses poèmes Essénine, poète oui. plus paysan que d'avant-garde. Et puis, le Café des Poètes à Moscou, dont témoigne ici Elsa Triolet, qui...
Oh là là.
Elle épousera plus tard Aragon, oui, d'accord. Et à l'époque, elle a 21 ans. C'est un son extrait, comme beaucoup d'autres que nous avons produits pendant ces émissions consacrées à la Révolution russe, de la grande collecte de l'ORTF en 1966-1967.
Il y avait un endroit qui était sur une des rues principales de Moscou, le pont des Maréchaux, Kouznetsky Most, où les magasins étaient vidés, évidemment. Il n'y avait plus rien à vendre. Il y avait un énorme magasin d'œuvres d'art, comme Brentanos, disons ici, de ce genre-là, librairie, œuvres d'art, Daziaro, et qui a été complètement vidé. Et on a fait là-dedans un immense café. Un café qu'on aurait appelé de style futuriste, si vous voulez. Et dont les murs étaient complètement hérissés de toutes les couleurs. Et c'est là que venaient les plus grands poètes de l'époque dire leurs vers. Et ça a été décoré par des peintres futuristes, parce que le futurisme qui est né à peu près à cette époque en Russie était à son plein développement à l'époque. Et c'est ça qui m'intéressait. Je ne voyais même pas tellement le côté politique de l'histoire. Pour moi, c'était une politique dans l'art, et encore pas tellement consciemment. Je savais qu'on pouvait maintenant faire dans ce domaine-là des choses qu'on ne pouvait pas faire avant la Révolution.
Alors, essayons de préciser, si c'est possible, les propos d'Elsa Triolet, une politique dans l'art. C'est-à-dire que ces poètes qui se retrouvaient, par exemple, au Café des Poètes, ils disaient « Vive la politique de la Russie !» et en même temps, ils disaient « Vive l'art !» qu'ils prenaient très au sérieux, « Vive l'art libre de la politique !»
Non, je veux dire pas tous les poètes. Dire que les poètes ont soutenu la Révolution d'octobre, c'est aller très vite en besogne. Un certain nombre de poètes se sont lancés à corps perdu dans la Révolution, retrouvant dans la Révolution le mouvement qui portait leur œuvre poétique. Et le premier est Maïakovski, qui était le plus brillant, le plus... Voilà. Beaucoup d'autres ont été, c'est le moins qu'on puisse dire, plus circonspects, voyant que ceux qui se jouaient là étaient d'un ordre beaucoup plus terrible, qui était la fin d'une culture européenne de la Russie. Et par exemple, Anna Akhmatova, par exemple, Osip Mandelstam, et ces poètes-là. D'autres poètes étaient plus circonspects encore, ne sachant pas exactement où se placer. Par exemple, Pasternak, qui en 1917 était, lui, pris tout à fait par autre chose, par Ma sœur la vie, c'est-à-dire par des poèmes lyriques. Et en fait, c'est les poètes autour de Pasternak et autour des futuristes, donc des futuristes liés à Pasternak, qui se sont investi dans la Révolution. Voilà.
Futuriste, alors. Futuriste. C'est le siècle des ismes en Russie.
Oui. L'idée, c'est de casser l'ordre traditionnel de la poésie et de la peinture, de la représentation. Casser la narration. Casser le mot à l'intérieur. Trouver, en fait, le futurisme en poésie, c'est un équivalent du cubisme. La décomposition du mouvement, comme on décompose un mot en particules originelles, en quelque sorte, comme un peintre cubiste décompose le mouvement. Et l'idée était de retourner à l'origine, au cri, à la force, en quelque sorte, primale d'avant la civilisation.
Alors, la gifle appliquée aux vérités acquises de la civilisation, à bas votre amour, à bas votre art, à bas votre religion, voilà. À bas votre régime. Voilà. C'est Maïakovski qui disait ça, qui avait fait beaucoup de performances
bien
de
sûr.
Théâtre de rue, dirait-on
bien
aujourd'hui.
Sûr. C'est même pas il considérait qu'il était lui-même son propre théâtre, lui-même, son propre corps, sa propre apparence. Et l'idée était que la littérature, la poésie, c'était pas un truc de petit recueil qu'on allait acheter chez son libraire préféré, pas du tout. C'était quelque chose qui engageait la vie même et qui était comme un torrent, comme lui-même était un torrent. Cette espèce de force à laquelle rien ne peut résister quand on entend les premiers poèmes de Maïakovski. Et donc, il utilise. En plus, il faut bien se représenter Maïakovski physiquement, qui était une espèce de mastodonte. Une énergie incroyable.
Alors, les uns et les autres ne courent pas dans le même couloir, nous dites-vous, André Markovitz. Oui. Alexandre Bloch, dont vous disiez qu'il était une manière de patriarche, il n'avait quand même que 37
c'est
ans.
C'est exactement ça.
En 1917, lui, il ne veut pas jeter à la rivière Pouchkine, Dostoïevski, Tolstoï, et il est très préoccupé par cette question que vous esquissiez de la place en Occident et de la place en Orient de la Russie. La Russie n'est ni en Orient, ni en Exactement. Occident. Elle est à la rencontre des deux.
Et c'est ce qu'il va essayer de dire dans un poème absolument magnifique qui s'appelle Les Scythes, en 1918. Les Scythes, donc c'est les ancêtres mythiques, naturellement, enfin des Slaves ou des Russes, qui sont considérés, traditionnellement, c'est pas le cas en vrai, comme des barbares, comme des tout ce qui n'est pas occidental. Et il y a toujours eu, dans l'histoire de la pensée russe, cette opposition entre un courant occidental et un courant, comment vous dire, asiatique. Et c'est ce que va dire Bloch dans ce poème. « Da skifme, da asiatme. » Oui, nous sommes les skifs ou des scythes. Oui, nous sommes des asiates. Mais la force asiatique de la révolution, c'est la terreur. C'est le sang qui coule à flot. Et Bloch est un de ces poètes, non pas qui salue cette force, mais qui la constate et qui la dit.
Fin 17, début 18, il se remet à écrire après une période de discrétion, les Scythes, les Douze. Alors on y entend dans les Douze la musique de la Révolution qu'il faut écouter, considérer le bruit des pas, des forces élémentaires, des hommes, de l'hiver, de l'arrière-société. Je vous laisse faire la lecture.
Bloch disait, «Слушайте». Écoutez, mais écoutez la force de la révolution. Il le faisait en russe. Le début, c'est ça. Черный вечер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер, на всем Божьем свете. Et je vais vous lire une traduction qui est très très belle, qui est la traduction d'Armand Robin, qui est en fait de loin la meilleure. En noir, le soir. En blanc, la neige. Il vente, ветер, ветер. Pas moyen qu'un homme tienne sur ses jambes. Il vente, vente, sur tout le divin monde. Le vent va virant les blancs neigeons. Sous les neigeons du glaçon. Verglas, ahan, tout piéton et glissement. Ah, bidniashka, pauvre Jean. de bâtiment à zdanie zdanio, pratianut kanat, de bâtiment à bâtiment, on tend une corde, na kanate plakat, sur la corde une pancarte, vsia vlast uchidzitelnemu sobraniu, tout le pouvoir à l'assemblée constituante. Une grosse vieille pleure à s'en rendre morte. D'aucune façon, elle ne comprendra la signification. Une telle pancarte, pour quelle raison? Un si gigantesque chiffon? Ce qu'on en tirerait pour les enfants de tissus perdus. Mais voilà, chaque homme est déchaussé, dévêtu.
C'est une référence, au moment même où paraît ce livre, à la réunion avortée de l'Assemblée constituante. L'Assemblée avait été promise pendant toute l'année 1917. Les bolcheviks n'y sont majoritaires que dans quelques points forts, mais pas dans l'ensemble du pays. Et ils vont dissoudre l'Assemblée. Juste un peu après, avril 1918, c'est la première à Moscou de la symphonie classique de Prokofiev. Oui.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec André Markowitz, incroyable de faire cette musique en 18 en Russie.
C'est ce que je vous dis, c'est sidérant, cette espèce de force et de courage de l'ironie de faire ça en 18, quand le monde ancien est en train d'être détruit, et de citer ce monde ancien comme ça.
Alors, il avait tort, Lunacharsky, le commissaire du peuple à l'instruction publique et à la culture, quand, après la première, il va vers Prokofiev et lui dit « Vous êtes révolutionnaire en musique, nous sommes révolutionnaires en politique, nous allons nous entendre. »
Ben, Prokofiev a compris qu'on voulait l'utiliser, et il a compris aussi qu'être révolutionnaire dans l'art, c'était pas du tout être bolchevique en politique. Et que les bolcheviques, en fait, étaient des classiques.
Donc Prokofiev, il est parti en mai.
Il est parti en mai.
Un mois après.
Absolument. Et il est revenu plus tard.
Beaucoup plus tard.
Ouais.
Oui, mais il y a non seulement la perception que les bolcheviks sont classiques en art pour beaucoup d'entre eux, mais plus profondément, ça c'est Bloch qui disait ça, le futur étouffera l'orchestre du monde.
Oui. Bloch, et oui, il parle de étouffer. Il parle d'absence d'air. Bloch, en 1921, était en train de mourir. Il s'est en fait laissé mourir. Et Bloch a fait un dernier discours sur Pouchkine en 1921, dans lequel il disait que ce qui a tué Pouchkine, c'était pas la balle d'un Français, Dantès, etc. C'était l'absence d'air. Et le discours de Bloch était sur « Donnez-nous de l'air ».
Mais Bloch, il est peut-être mort aussi de toutes les réunions auxquelles on le convoquait, où on le présentait en patriarche,
bien sûr,
instrumentalisé, parce que on a donné des responsabilités aux futuristes, des responsabilités en matière d'acquisition d'œuvres d'art, en matière d'enseignement, et ils se sont pris souvent à ce jeu, et c'est le cas de Mayakovsky.
Oui, alors c'est encore plus complexe et plus simple. C'est-à-dire, il n'y avait pas de travail du tout, il n'y avait plus rien. Donc il fallait bien... Et or, les bolcheviks fournissaient des postes. Et donc, beaucoup de poètes ont pris ces postes, et même des gens qui étaient radicalement opposés aux bolcheviks, et qui sont très vite partis, Khadasevich, des gens comme ça, et Bloch, pareil. C'était simplement une façon pour eux aussi de simplement... pas de gagner de l'argent, l'argent, il n'y avait pas d'argent, hein, mais de gagner justement un peu de pommes de terre, un peu de bois de chauffage.
Et puis l'exposition. Mayakovsky rêvait que soit tiré à 50 000 exemplaires, 150 millions. Un poème paru en 1921 que vous allez nous lire en russe, brièvement en russe. Non, et non, puis non. Après, on va entendre la version française telle qu'elle a été donnée dans une opération de nos camarades de France Culture, oui, du département fiction de France Culture, au moment de l'anniversaire de la Révolution.
À laquelle j'ai participé, donc absolument. Le texte russe, c'est ça. C'est « И все эти 150 миллионов людей, миллионы рыбин, триллионы насекомых, зверей, домашних животных, сотни губерний, со всем, что построилось, стоит, живет в них. Все, что может двигаться, и все, что не движется, все, что еле двигалось, присмыкаясь, ползая, плавая, лавою все это, лавою.
И maintenant, par la voix de Denis Lavant.
En avant, marche! Et tous ces 150 millions d'hommes, ces milliards de poissons, ces milliards d'insectes, de bêtes sauvages, d'animaux domestiques, les 100 gouvernements et tout ce qui fut édifié s'anime et se lève. Et tout ce qui peut se mouvoir, et tout ce qui ne se meut pas, et tout ce qui bouge à peine à plat ventre, en rampant, à la nage, tout ça dévale, en lave. Aujourd'hui, nous lançons la Russie vers le ciel, à travers les fentes des couchants irisés. Oh, 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 en avant-marche, à travers la garde blanche des neiges. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde entier fixe ses yeux sur nous, que tous tendent l'oreille à nos moindres propos, afin de bien voir tout, afin d'entendre tous ces mots, tout ça.
Très bien, dit Lénine, qui déteste, qui propose un tirage à 1500 exemplaires ou quelque chose comme ça.
Ah oui, je ne savais pas ça, mais oui, oui, absolument. Mais voilà.
Et Mayakovsky, comment finira-t-il, lui, plus tard? Après avoir été un ambassadeur de la Russie soviétique à l'extérieur.
Il marchera sur la gorge de son propre champ, c'est ce qu'il dit. J'ai marché sur la gorge de mon propre champ, au nom de la Révolution. Il en profitera beaucoup, et il finira par se suicider.
On a, question classique, pardonnez-moi, André Markovitz, essayé de distinguer le point de vue de Trotsky du point de vue de Lénine. Parce que Trotsky, il faisait des analyses géographiques et il disait, vous savez, il y a des fleuves, il y a des méandres, et l'avant-garde, c'est une sorte de méandre, on pourrait peut-être le faire capter par le fleuve parallèle, plus important, le fleuve de la Révolution.
Il disait ça. Mais de toute façon, l'avant-garde a été captée par le fleuve de la Révolution. Parce que à un certain moment, le futurisme s'est arrêté, au début des années 20. Déjà en 1900, enfin, à la fin des années 20, tous ces poètes étaient rentrés dans le rang, ou s'étaient tus, ou étaient morts. Parce que, petit à petit, avec la construction du régime stalinien, l'élaboration du régime stalinien, dès avant la prise de pouvoir de Staline en tant que tel, ce qui se jouait, c'était un retour au classicisme. Il fallait être compris par le peuple. La phrase étant, il faut être compris par le peuple et donc il faut éduquer le peuple. On ne gardait que, il faut être compris par le peuple. C'est-à-dire que tout ce qui était un tant soit peu dur à comprendre était simplement, d'abord, pas interdit, mais juste pas publié. Et après, carrément interdit, et après réprimé.
Loulatcharsky, le commissaire du peuple, est d'ailleurs écarté de son poste en 1929. Marina Zvetaïeva, oui. Grande poétesse, considérait que la poésie était une, qu'on ne pouvait pas distinguer, caractériser les poètes. En même temps, vous avez dit, il faut distinguer. Et si on finit par elle, c'est parce que, dès le départ, elle Elle a été hostile à la Révolution.
Absolument. Elle a écrit toute une série de textes à la gloire de l'armée blanche. Elle avait senti que ce qui se passait là était inouï. Que la violence qui se jouait là était quelque chose qui dépassait de loin tout ce qui s'était vu.
France Culture a présenté comme son journal à la hauteur de novembre 1917 ce passage.
Un rêve. 2 novembre 1917. Un homme sort d'une cave avec une carabine. Je le prends, en joue, avec ma main, et rien dedans. Il abaisse sa carabine. C'est un jour de soleil. Nous escaladons des tas de pierres. Nous avançons en calèche dans les décombres. L'homme a de l'acide sulfurique. Les nouvelles sont incertaines. Je ne sais que croire. Je lis le Kremlin, le boulevard de Tver, l'Arbat, l'hôtel Métropole, la place de l'Ascension, des monceaux de cadavres. Le journal La Vie de Koursk d'hier, le 1er novembre, dit que le désarmement a commencé. J'ai constamment l'impression que tout ceci est un épouvantable rêve.
André Markowitz.
Cet homme a reçu la Révolution. Elle était dans le sud de la Russie, elle fait Adossia. Elle a écrit une série de poèmes sur le début de la terreur. Après, elle s'est lancée, comme j'ai dit, dans des poèmes sur la gloire de l'armée blanche. Elle a vécu la famine à Moscou en 1920-21. Elle a perdu sa fille. Elle a émigré. Elle a vécu en France, allons vite, dans une solitude à peu près totale. Et puis, par toutes sortes de circonstances, en 1939, elle est revenue en URSS pour se pendre en 1941. Beaucoup de poètes se sont dressés contre la Révolution. Certains sont partis, d'autres sont restés. En fait, octobre 1917, c'est la grande rupture, non seulement dans l'histoire russe, mais aussi dans la poésie russe, entre les gens. Tous ces gens se fréquentaient avant, en 17, après, disons 18-19, Akhmatova ne parle plus à Maïakovski. Et Mandelstam non plus. Maïakovski prend toute la place. Mandelstam n'est quasiment plus publié. Et c'est la terreur qui augmente et qui s'installe.
Merci à vous, André Markowitz. L'émission a été réalisée par Lise Combe, préparée par Linka Negulesco, la technique Selim Geribi.